Madame, monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg.
Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Omar, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier.
Suspense dans le Mont Blanc pour l'alpiniste René Desmaisons et son camarade Serge Gousseau. Les deux hommes, qui tentent la première ascension directe de l'éperon Walker, sont en difficulté. Ils n'ont plus qu'une issue, le sommet, qui les surmonte encore de 300 mètres.
À Chamonix... Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, les Grandes Jorasses, une cordée en enfer. Depuis 6 jours, René Desmaisons, une légende de l'alpinisme, est bloqué avec Serge Gousseau, son compagnon de cordée, sur la face nord des Grandes Jorasses, à 4100 mètres d'altitude. Ils n'ont plus ni vivres, ni gaz dans le réchaud pour faire fondre de la glace. Dans cet enfer vertical de glace et de roche, le soleil n'apparaît jamais et la température descend jusqu'à moins 35 degrés. Ce 25 février 1971, il est 13h quand René Desmaisons entend une voix au-dessus de lui. Délire-t-il ? A-t-il déjà un pied au paradis des alpinistes ? Non. L'homme qui l'interpelle est bien réel. Accroché à un câble d'acier, Gérard Devoissou, l'un des meilleurs guides de Chamonix, descend du sommet de la pointe Walker, 90 mètres plus haut, pour le secourir. René Desmaisons ne l'attendait plus. En 1971, à 41 ans, Desmaisons est la star des grimpeurs français. D'abord grâce à ses exploits. Ce natif des environs de Périgueux ne vit que pour la haute montagne. Il fait ses premières armes sur les rochers de la forêt de Fontainebleau à la fin des années 40 et découvre la montagne pendant son service militaire chez les chasseurs alpins à Briançon. Desmaisons a tout du grand conquérant des cimes. Un physique hors norme, un mental d'acier et un esprit de pionnier qui le pousse à multiplier les premières du massif du Mont Blanc jusqu'aux Dolomites. Dans la vallée de Chamonix, la Mecque des grimpeurs où il a élu domicile dans les années 50, il s'est imposé comme l'un des plus brillants de sa génération. C'est aussi sa personnalité qui le distingue. Dans le petit milieu fermé de l'alpinisme, Desmaisons passe pour un iconoclaste, qui déteste les normes et les contraintes. Un arrogant aussi, conscient de sa supériorité. Un businessman, enfin, qui aime la lumière et les médias. Il se met en scène dans des publicités et des conférences, il signe des contrats de sponsoring. Bref, un grimpeur qui sait faire fructifier ses exploits, soutenu par son épouse Simone, une ancienne actrice qui lui sert d'impresario. Un ami de l'époque raconte.
Il écrit des articles, il les écrit plutôt bien, il sait les rendre vivants, il sait intéresser les gens par les personnages qui sont avec lui, il sait rendre une émotion, donner une émotion. Et c'est quand même ce qui compte en général dans un exploit comme un exploit de la montagne.
Grâce à lui, le grand public découvre le monde de l'aventure verticale, jusque-là marginal et secret. Mais à Chamonix, tout cela agace. Le géant de l'escalade a réussi à se brouiller avec tous ceux qui comptent à l'ombre du Mont Blanc. Il a à son actif une affaire retentissante, celle du sauvetage des Drus en août 1966. Deux Allemands sont alors coincés sur cette paroi mythique du massif. Avec quelques grimpeurs, francs-tireurs, Desmaisons double les secours officiels et redescend les naufragés des cimes sains et saufs. Avant de vendre les photos du sauvetage à Paris Match. Une bonne partie de la vallée lui en a voulu, dont le puissant Maurice Herzog, vainqueur de l'Annapurna et maire de Chamonix. Ainsi que Gérard Devoissou, le guide qui le sauvera en 1971 aux Grandes Jorasses. Desmaisons s'était même fait exclure de la prestigieuse compagnie des guides. Peu importe, j'ai choisi la montagne pour la liberté et non pour la discipline, affirme-t-il. Dans les années 60, cet électron libre des sommets inaugure un nouveau style d'alpinisme extrême, les grandes hivernales. Il s'agit de l'ascension en plein hiver, des faces les plus difficiles et les plus hautes des Alpes. Un engagement physique total et des retombées assurées.
Deux alpinistes français tentent actuellement la première hivernale du terrible pilier du Fresnay.
Oui, ces deux alpinistes sont bien connus. Il s'agit de René Desmaisons et de Flemmati. Ils ont achevé ce matin leur marche d'approche commencée mardi et ils ont dû vraisemblablement passer à l'attaque même du pilier ce matin. Si les conditions atmosphériques restent favorables, Desmaisons et Flemmati pensent pouvoir effectuer l'ascension en 48 heures avec seulement un bivouac.
En janvier 1968, il se lance avec son compagnon de cordée Robert Flemmati dans la voie du Linceul, un toboggan de glace de plus de 700 mètres de haut, près de la face nord des Jorasses. Et pour la première fois, il décide de faire vivre les 8 jours d'ascension en direct aux auditeurs de RTL. Cette expédition fait de lui un héros populaire et ancre la terrible face nord des Jorasses dans l'imaginaire collectif. Cette paroi est devenue, pour les alpinistes, l'équivalent du passage du Cap Horn pour les navigateurs. En grimpant la voie du Linceul en cet hiver 68, Desmaisons prend aussi le temps d'étudier une ligne directe menant au sommet de la pointe Walker. Une succession très verticale de grandes rampes de glace et de dalles de granit. L'itinéraire est encore vierge. Desmaisons veut être le premier à y accéder. Le projet mûrit et à l'été 70, il a pris sa décision. Il se lancera l'hiver prochain. Le 11 février 71, à l'aube, deux hommes remontent à ski le glacier de l'Échaud vers l'immense face qui le barre en amont. La veille, ils en ont escaladé les 100 premiers mètres. Ils ont installé des cordes fixes et regagné le refuge au bord du glacier pour la nuit. Cette fois, ils s'engagent pour de bon. À côté de René Desmaisons, un gaillard blond et athlétique de 23 ans qui vient d'obtenir son diplôme de guide, Serge Gousseau. L'été précédent, Desmaisons a cherché un compagnon de cordée pour son projet d'ascension. Un second plutôt. Grimper avec le maître, c'est accepter de rester dans son ombre, de l'assurer pendant qu'il ouvre les longueurs, puis de récupérer derrière lui les pitons et les broches à glace. Le compagnon des précédentes hivernales, Robert Flemmati, n'a plus envie de jouer ce rôle. Grâce à un ami, Desmaisons tombe alors sur Serge Gousseau. Jeune, enthousiaste et puissant, ce natif de Touraine fait partie d'une nouvelle génération d'alpinistes décomplexés pour qui l'escalade répond à un idéal de liberté. Desmaisons est leur idole. Gousseau, flatté d'avoir été choisi, est surmotivé. Il a durement préparé cette expédition, ski de fond, escalade à main nue dans le froid. Mais à côté du roi René, il reste un apprenti. Et il n'a aucune grande hivernale à son actif. Ils n'ont même jamais grimpé ensemble. Ils ont prévu de s'échauffer dans une autre voie des Grandes Jorasses, un peu plus accessible. Mais, surprise, une cordée les y a précédés. Le duo se dirige alors d'emblée vers la pointe Walker. Les premiers jours d'ascension se déroulent bien. Desmaisons grimpe quelques dizaines de mètres, installe un relais, fait venir le sac de matériel et son compagnon de cordée, puis recommence. Simone, son épouse, lui transmet la météo par radio. La nuit, les deux hommes aménagent un bivouac précaire à flanc de paroi. Arrimés à un piton, emmitouflés dans leur duvet, ils reprennent quelques forces. Plus ils progressent, plus la voie révèle son extrême difficulté. La verticalité, la glace fine où les crampons tiennent à peine, les grandes envolées sans pouvoir poser la moindre protection.
C'est-à-dire, je sens déjà qu'il faut peu de choses pour que nous atteignions ce qu'on appelle le point de non-retour, tu vois. Pour descendre les passages que nous avons montés, il faut qu'il fasse très beau, que les conditions restent telles. Si nous devons faire demi-tour, c'est parce qu'il fait mauvais temps. Si il fait mauvais temps, tous ces passages seront couverts de neige en plus, il n'est plus question de retourner à ce moment-là.
Tu vois. Ça veut dire qu'à partir du quatrième jour, tu te dis on sort en haut ou on sort pas.
Voilà.
Au quatrième jour de l'expédition, le 14 février, le piège commence à se refermer sur les grimpeurs. Premier signe du mauvais sort, la chute d'une pierre tranche l'une des cordes d'assurage et celle qui sert à hisser le sac. Les jours suivants, les ennuis s'accumulent. Le mauvais temps s'installe. Une coulée de neige noie la radio et rompt le contact avec Simone.
Il est actuellement à 300 mètres du sommet, une paroi entièrement surplombante. Il est donc exclu maintenant qu'il puisse redescendre en rappel. Si le mauvais temps s'est sévissé encore davantage, il faut qu'il sorte par le sommet.
Une nouvelle chute de pierre sectionne la seconde corde d'assurage et oblige les deux alpinistes à réduire leur encordement de 50 à 25 mètres.
Il neige, c'est mauvais temps, mais le temps n'est pas encore extrêmement froid. Nous gagnons comme ça à peu près une centaine de mètres. Et c'est là que j'ai vu, dans l'après-midi, il y a eu un moment de froid très intense, tu vois. D'un seul coup, mes trois doigts, là, d'un seul coup, c'est devenu blanc. Mais en quelques secondes, j'ai vu mes trois doigts, clac, devenir blanc. J'ai vu la peau devenir blanche et se décoller même des tissus, tu vois. Ça fait trois ampoules, là. J'ai vu que le froid mordait d'un seul coup et je me suis retourné vers Serge. Je lui ai dit, attention, Serge, il fait très froid, on va se geler les mains, il faut prendre les gants. Moi, j'ai repris mes gants et j'ai dit à Serge, je n'ai pas ses gants. Je lui ai dit, Serge, ne reste pas sans gants. Surtout en deuxième, tu n'as aucune raison, prends tes gants. Seul au moins, j'ai pensé qu'il m'avait écouté. Je n'ai plus fait attention ensuite. Et le soir est arrivé.
Serge, lui, commence à montrer des signes de faiblesse et de perte de lucidité. Ses mains enflent sous l'effet du froid. Des lambeaux de peau s'en détachent. Et il a de plus en plus de mal à récupérer les protections posées par René.
Et je me suis inquiété. Je lui ai dit, Serge, est-ce que tu vas pouvoir récupérer les pitons avec tes mains? Parce que, tu sais, les pitons, il faut les récupérer absolument. C'est très important pour sortir, il nous faut les pitons, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer là-haut, on n'est pas encore au sommet. Et dans cette paroi, sans pitons, on est foutu. Enfin, on est perdu. Il m'a dit, t'inquiète pas René, ça va. Je lui dis, mais est-ce que ça va? Est-ce que la forme est bonne? Il a dit, oui, la forme, t'inquiète pas, j'ai mal au même, mais la forme est bonne. Et il insistait pour me dire que la forme était bonne. Il me demandait, et toi, est-ce que la forme est bonne? Je lui dis, moi, ça va très bien, Serge, je suis inquiet pour toi. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça ira.
Le 18 février, le sommet semble tout proche. Mais la cordée piétine. Les vivres s'amenuisent. Le stock de broches à glace et de pitons aussi. Serge perd l'usage de ses mains et ne peut plus continuer.
J'ai encore fait une longueur de 25 mètres. Enfin, après bien des efforts, il me rejoint. Il arrive près de moi. Et là, il me dit, René, je ne peux plus dépitonner, je ne peux rien faire. Ses deux mains sont gonflées. Il a passé ses moufles dessus. Les deux moufles sont gelées dessus. Je me rends compte qu'il a des espèces de bras, des bras de boules rondes qui ne peuvent plus salir rien. Il me dit, je ne peux plus récupérer et je ne peux même plus démousquetonner.
Le lendemain débute le 9e et dernier bivouac en paroi, à 90 mètres à peine du sommet de la pointe Walker. René commence à envisager l'impossible pour lui, demander du secours. Dans la vallée, l'inquiétude monte. Proches et journalistes ont pris le tunnel du Mont-Blanc pour rejoindre le côté italien des Jorasses, celui de la descente. Les deux hommes ne devraient pas tarder. Un hélicoptère les a aperçus, deux jours plus tôt, à proximité du sommet. Mais le 20 février au matin, toujours rien. Un hélicoptère des secours en montagne part en reconnaissance. Il s'approche à 40 mètres des grimpeurs. L'un des secouristes leur fait un signe. Pousse en haut, pousse en bas. Sont-ils en train de monter ou de descendre? Des maisons répond, par de grands gestes, des bras repliés sur sa poitrine, puis tendus horizontalement. Il essaie de leur faire comprendre qu'ils sont immobilisés. Le problème, c'est que ces gestes ne correspondent pas aux signaux habituels de détresse. Du coup, les secouristes en concluent que tout va bien. Le lendemain, nouvelle rotation d'hélicoptère, et même incompréhension. Dans la vallée, on se perd en conjectures sur l'immobilité des deux alpinistes. Desmaisons le conquérant qui fait du surplace, ça ne lui ressemble pas. Pour certains, ils attendent une accalmie du vent pour atteindre le sommet. Pour d'autres, Desmaisons fait durer le suspense pour mieux monnayer son récit à la presse. Pendant ce temps, à 4100 mètres d'altitude, débute une terrible attente. Pour Serge Gousseau, hélas, elle ne durera pas. Les avant-bras gelés, le jeune alpiniste lâche prise. Il délire et tombe dans une lente léthargie.
Le lendemain matin, le temps n'est pas très beau. Il y a des nuages, le vent souffle en rafale, la neige qui vole. Si je me rappelle bien, un hélicoptère est passé dans la matinée. Il passe près de nous, il regarde et puis il s'en va. le dimanche matin.
Puis il faisait mauvais.
Il faisait mauvais. Les heures s'égrènent et dans la fin de journée, un autre hélicoptère revient. Le Serge, lui, va de plus en plus mal.
Il avait conscience d'aller très mal?
Non, il n'avait pas conscience d'aller très mal. Et dans l'après-midi, à la fin de journée, il y a d'autres, l'hélicoptère qui revient, qui repasse. Et puis Serge me dit, mais René, mon hélicoptère, est-ce qu'il vient? Je lui dis, oui, il vient dans l'hélicoptère. Et puis il me dit, si on montait au sommet, tu vois, c'est le rampe sur le plateau là-haut. On pourrait trouver un bistrot, et trouver à manger, on viendrait après. Alors je comprends à ce moment-là que c'est la fin qui commence, tu vois.
Le 21 ou le 22 février, la date est toujours incertaine, il meurt d'épuisement. René Desmaisons aurait encore pu achever la voie seule, mais il reste à ses côtés. Au début, par solidarité, on n'abandonne pas un compagnon mourant. Ensuite, parce qu'il pense que les secours vont bientôt arriver. Et finalement, parce qu'il est lui aussi à bout de force. En bas, dans la vallée, Simone se ronge les sangs. Doit-elle croire les comptes rendus optimistes des hélicoptères de reconnaissance ou doit-elle demander des secours, quitte à réduire à néant l'exploit de son mari? Le 22 au matin, elle se décide enfin. Mais cette fois, les éléments s'interposent. Pendant 3 jours, des vents violents empêchent les hélicoptères de poser des sauveteurs au sommet. Pendant ce temps, des guides de Chamonix partent sur le versant italien. Mais impossible de gravir les 1400 mètres qui les séparent du sommet. La neige fraîche menace à tout moment de partir en avalanche. Suspendu sur la paroi, exténué, René Desmaisons sait qu'il ne tiendra plus longtemps. Le corps sans vie de Serge Goussot balance à ses côtés, dans sa combinaison bleue. L'alpiniste s'accroche difficilement à la vie. Bien lui en prend.
Puis là, je me suis accroché, je me suis dit non, mon Dieu, j'ai tenu jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ce vent ne s'arrête pas. Mais cette nuit, c'est fou, je passerai, je m'enveloppe dans la toile de bivouac, de temps, je n'ai plus que ça, mais je dois tenir encore une nuit, tu vois. Puis c'était le silence. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu une voix, tu vois. Alors là, j'ai levé la tête et j'ai vu Gérard qui descendait du cas.
Il était là tout près.
Et là tout près, je me suis dit, je vais vivre. J'ai pas dit je suis sauvé, j'ai dit je vais vivre.
Le 25 février au matin, un hélicoptère arrive en renfort depuis Grenoble. Le pilote, Alain Frébeau, ne connaît pas la zone du Mont Blanc. Avant d'atterrir à Chamonix, il s'approche des grandes Jorasses, constate la force des rafales, mais repère un petit col dans une faille. Le vent y est assez faible pour qu'il puisse y déposer des secouristes. Quelques rotations plus tard, 5 d'entre eux montent vers la pointe Walker et y installent un treuil. Suspendu à son câble, Gérard Devoissoux, l'emblématique guide de Chamonix, descend la paroi. Le secouriste parvient au niveau de René Desmaisons. Il coupe la corde retenant le corps de Serge Goussot, qui plonge vers le glacier où un hélicoptère viendra le récupérer. Puis, il arrime le survivant à son câble et le remonte grâce au treuil jusqu'au sommet de la pointe Walker. 4 autres sauveteurs attendent là. Le groupe descend la pente de glace jusqu'à un col, 100 mètres plus bas, où stationne un hélicoptère. Quelques instants plus tard, très affaibli, mais debout, René Desmaisons, soutenu par 2 hommes, descend sur la piste d'atterrissage au milieu de la foule et des flashs. Il est conduit à l'hôpital. Dans la vallée, les parents et la fiancée de Serge Goussot apprennent sa mort. René Desmaisons, lui, retrouve les vivants.
À 14h35 cet après-midi, l'hélicoptère emmenant René Desmaisons se posait à Chamonix. Immédiatement, le célèbre grimpeur était conduit à l'hôpital. Notre envoyé spécial, Jean Pézieux, a réussi à rencontrer Madame Desmaisons. Celle-ci ne cachait pas son émotion. Écoutez.
Il est évidemment extrêmement faible. Mais il a envie de vivre. Alors je sais qu'il va lutter pour vivre.
Quand vous l'avez vu tout de suite, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a dit, ça va maintenant, ma chérie. Je vais dormir. Ça va aller.
Fin de l'histoire? Non, début de la polémique. Celle des grandes Jorasses sera vive et médiatique. L'alpiniste est persuadé que l'incompréhension de ses gestes de détresse et la lenteur des secours ne doivent rien au hasard. Il accuse le milieu chamoniard, notamment Maurice Herzog, de lui avoir fait payer ses coups d'éclat et ses impertinences. Comment se débarrasser de l'idée que l'opération a été menée avec trop de mollesse, une absence évidente de conviction ? Je ne puis me défendre de penser que ce pauvre Desmaison n'était pas un personnage tellement intéressant à sauver, affirme-t-il. En retour, le grimpeur est lui aussi mis en cause. A-t-il clairement indiqué au premier hélicoptère leur situation de détresse ou a-t-il temporisé alors que Serge Gousseau manifestait des signes évidents de faiblesse ? René Desmaison n'aura de cesse de se dédouaner.
Les personnes qui m'ont le plus touché, c'est d'avoir dit par exemple que j'avais fait des photos de Serge Gousseau alors qu'il était en train de mourir, que j'avais entraîné un compagnon qui peut-être n'était pas assez fort pour attaquer cette paroi. Je considère que c'est une insulte à mon compagnon Serge Gousseau qui était un alpiniste très fort.
En réalité, tout le monde a ses torts. Ce drame est le fruit d'un double aveuglement. Celui de Desmaison, qui a nié la gravité de l'état de son compagnon, et celui des sauveteurs, abusés par la réputation de surhomme de René et son art de la mise en scène. La tragédie de 1971 ne signe pas la fin de la carrière du héros des cimes. 2 ans plus tard, il repart à l'assaut de la pointe Walker. Cette fois, il sort vainqueur de cette voie baptisée « Gousseau Desmaison », qui reste aujourd'hui encore un itinéraire d'une extrême difficulté. Il prend ses distances avec Chamonix et part s'isoler dans le massif du Dévoluy. En 1973, il publie le récit de ce drame, 342 heures dans les Grandes Jorasses. Il poursuit ensuite sa conquête des sommets dans la cordillère des Andes où il enchaîne les exploits et les premières. Et il continue à médiatiser ses aventures en multipliant les livres, les films et les conférences. À 75 ans, en 2005, il est enfin réintégré dans la compagnie des guides de Chamonix. Il succombera à un cancer 2 ans plus tard. Pionnier de l'alpinisme moderne, René Desmaison a brisé les carcans de sa discipline, l'a ouverte sur l'extérieur et a inspiré toute une génération. Pour lui, cette terrible ascension de 1971 est l'une des 114 premières de son incroyable palmarès. Pour le public, elle reste la plus légendaire. On n'entre pas au panthéon des grimpeurs sans un grand drame. Le sien, Desmaison l'a vécu là, dans l'enfer des Grandes Jorasses.
Là-haut, il est resté des sacs à dos, une vieille corde tout hachée. Mais cet été, j'y retournerai là-haut. Je passerai par le sommet, ça me rappelle. Je vais aller chez Isaac, je vais revoir ça là-bas, tu vois. J'y pense déjà.
Juste là, tu veux?
Juste là, oui. Depuis le sommet, j'irai. C'est pas difficile.
Pour refaire la sortie tout seul ou...
Non. C'est pour rechercher les sacs que j'ai laissés là-bas, parce que c'est un souvenir, puis... Pour voir cet endroit, pour voir ce coin où je suis resté si longtemps, j'y retournerai.
Qu'est-ce que tu veux chercher là-bas ?
Je vais retourner là-haut pour essayer de me rappeler plus précisément encore, pour revoir ce que j'ai vu, pour revoir le même paysage que j'ai vu pendant si longtemps, pendant quelques minutes, du même endroit, tu vois.
Tu en as envie ?
Oui. J'en ai envie, j'y ai pensé, j'en ai envie. Puis à Serge, tout ça. Voilà.
Ce texte, écrit par Volker Sox et adapté par Anne-Vincent Sini et Christine Ivaren, a été enregistré par Diane Mottez, mixage de Lucas Vibeau. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous attendons vos réactions, commentaires. N'hésitez pas aussi à nous noter sur les plateformes et à partager avec votre entourage. Rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Faits d'hier.